Le journal Lucas Valdener, bonjour.
Bonjour. C'est du jamais vu, une succession de duels à élimination directe dans une seule ville et des stades totalement vides. À cause du coronavirus, la phase finale de la Ligue des champions de foot démarre ce soir dans un format inédit et le PSG ouvre le bal. Barbara Pompili se défend de tout renoncement. Le gouvernement veut de nouveau autoriser un insecticide controversé dans les cultures de betteraves. Faute de trouver mieux, c'est la seule solution pour aider la filière, selon la ministre de la Transition écologique. Dans les musées, on craignait le pire, une saison estivale ruinée par la crise sanitaire, et bien finalement, les professionnels de la culture s'en sortent plutôt bien, en tout cas pour l'instant, la preuve au Pays Basque.
France Inter.
C'est une Ligue des champions qui restera dans l'histoire. Quel que soit le vainqueur dimanche prochain, on n'oubliera pas cette édition 2020. À cause de la crise sanitaire, fini les matchs aller-retour, terminé les chants de supporters. Et ce soir, le PSG inaugure une phase finale hors du commun et donc affronte l'Atalanta Bergame dans un stade vide à Lisbonne. Bonjour Alexandre Vaux.
Bonjour Lucas.
Les portes des demi-finales semblent grandes, ouvertes pour les Parisiens. Ce serait une première depuis 25 ans.
Oui, et après 4 ans d'absence à ce stade de la compétition, les Parisiens vont affronter une modeste mais néanmoins dangereuse équipe de Bergame. Le retour à point nommé de Kylian Mbappé, en forme avant son entorse en finale de la Coupe de France. Mais aussi Neymar, qui est enfin là cette année. Il n'est pas blessé, fini les problèmes de pied avant les matchs couperets. C'est pour ça que le PSG a arraché le fer de lance de la remontada, 222 millions d'euros à Barcelone en 2017, pour enfin faire éclater ce plafond de verre, vous le disiez, 25 ans après sa première et dernière demi-finale. Paris peut retrouver le dernier carré et atteindre pour la première fois de l'ère Qatari les demi-finales de la Ligue des Champions. Le jour du 50e anniversaire du club, le cadeau d'anniversaire est tout trouvé. Et puis, face à une équipe italienne qui découvre la compétition, vous le disiez, compétition rabotée à cause du Covid, la qualification va se jouer ce soir à huis clos et sur un match avec un tel enjeu. On peut le dire, Lucas, Paris favori.
Alexandre Vaux, merci. Coup d'envoi donc de ce premier quart de finale à élimination directe ce soir, 21h. 3 policiers agressés à coups de barre de fer. Ça s'est passé cet après-midi dans le 13e arrondissement de Paris. L'agresseur est un sans domicile fixe et l'un des agents lui a tiré dessus à plusieurs reprises dans l'abdomen. L'homme a été transporté à l'hôpital. L'IGPN, la police des polices, est saisie. Ils se sentent mis de côté, oubliés, comme rayés de la liste. Une soixantaine d'anciens livreurs à vélo de la plateforme de livraison Fritchi ont manifesté aujourd'hui à Paris. Ils sont sans papier et ils se sont donné rendez-vous place de la Nation avant de rejoindre le siège de la CGT, porte de Montreuil. Il faut savoir une chose, qu'une centaine d'autres livreurs ont obtenu il y a un mois leur régularisation. Pourquoi eux et pas nous? Rémi Brancato, dans le cortège de ce matin, on crie à l'injustice.
Sur les banderoles, le message est clair, régularisation de tous les sans-papiers de Frichti, car ceux qui manifestent ce matin ne font pas partie des 100 régularisés ce mois-ci après la grève.
Il fallait que tout le monde soit régularisé. Certains d'entre nous se sont vus rayer des listes. Il y a eu une injustice.
Comme ses camarades, Siaka Fofana ne peut plus travailler pour Frichti et il n'a toujours pas de papier.
Ça fait peut-être 2 mois, on n'a pas de travail, on est livré à nous-mêmes, on a des loyers à payer, on doit se nourrir, nous sommes désespérés.
Car l'État a fixé des critères de régularisation, avoir vécu assez longtemps en France, avoir gagné assez d'argent aussi. Ismaël Aoui, ivoirien, estime rentrer dans les clous.
Moi j'ai 3 ans sur le territoire, j'ai un chiffre d'affaires de 8 800, environ 9 000. Donc normalement je remplis ces critères-là. Franchement je suis déçu, j'ai toujours pas eu mes papiers. Je m'attendais à ce que tout le monde soit régularisé.
Alors les manifestants se sont rendus au siège de la CGT qui a soutenu la mobilisation des livreurs. Mais pour Marilyn Poulain du syndicat, c'est à l'État qu'il faut demander des comptes car il a restreint le nombre de régularisations.
Il y a une partie des personnes qui se retrouvent laissées pour compte, ce n'est sûrement pas notre volonté. C'est une situation qui est complètement inédite. La première mobilisation de livreurs auto-entrepreneurs sans papier. Donc l'État n'a pas voulu créer un précédent. On aurait souhaité que tout le monde puisse être concerné. Pour autant, est-ce que la CGT est la bonne cible? Je n'en suis pas convaincue.
La CGT qui dit préparer une action massive de travailleurs sans papier pour l'automne et elle invite ses livreurs à s'y joindre.
Ne pas perdre la face et se défendre de tout renoncement. En déplacement à Biarritz, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, s'explique sur cette récente décision du gouvernement, celle d'autoriser à nouveau un néonicotinoïde dans les cultures de betteraves attaquées par les pucerons. Le produit est dangereux, notamment pour les abeilles. Et selon la ministre, faute de solution alternative, c'est la seule façon de protéger la filière sucrière.
Je regrette amèrement que pour des raisons qui sont des raisons d'inertie, qui sont des raisons de manque de pilotage, qui sont pour des raisons de multiplicité des responsabilités, c'est-à-dire en gros, tout le monde était responsable mais personne n'était responsable, eh bien, il n'y a pas eu assez de mesures claires qui ont été prises pour appliquer la loi que j'ai fait voter en 2016. Et comme la loi n'a pas suffisamment été appliquée, qu'il n'y a pas eu assez de recherches, qu'il n'y a pas eu assez d'alternatives mises en place, aujourd'hui on est dans le mur. Et donc quand on est dans le mur, eh bien, il faut être responsable. Moi, je suis une responsable politique. Et donc, je ne pouvais pas laisser les choses partir comme ça. Que ceux qui me disent qu'on peut faire autrement pour avoir des semis de betteraves dans les 6 mois viennent me voir, je les écouterai avec grande attention. Et si on peut éviter d'en arriver là, ce sera formidable. Malheureusement, aujourd'hui, pour une solution dans les 6 mois, on n'y arrivera pas.
Ils craignaient une saison noire. Les voilà rassurés. Sur la côte basque, les professionnels du tourisme ont du travail. Une majorité des hébergements affichent complet. Et malgré les contraintes sanitaires, les sites et les musées font le plein. Sébastien Sabiron.
Bonjour à tous, bienvenue au château d'Urtubi. Je m'appelle Emma, je suis stagiaire ici au château.
Un château du 14e siècle à deux pas de Saint-Jean-de-Luz. Réservation obligatoire, pas plus de 10 visiteurs par groupe, une clientèle exclusivement française cette année.
On est venu là, on a fui Saint-Jean-de-Luz, sa foule et ses touristes, et on est au frais, on est bien.
C'est vrai qu'on voit la plage d'Andaï, ça fait pas peur, mais on va dire c'est vraiment des rassemblements assez important, quoi.
Donc on est plus tranquille dans un château dans l'arrière-pays.
Voilà, et plus rassurant aussi.
Vous voyez, là, vous êtes devant le donjon du 14e.
Après un printemps confiné, un mois de juin timide, la fréquentation estivale est comparable à celle de l'an dernier. Laurent de Corral, le propriétaire, s'en réjouit, mais pas trop vite.
Je crois que les gens ont eu besoin de partir. Et donc, nous sommes satisfaits du mois de juillet. Mais j'insiste sur le fait qu'avril, mai, on a tout perdu et qu'on est dans l'incertitude totale pour la fin août et septembre et octobre.
Inquiétude partagée par l'association Sites et Musées en Pays Basque, son président Jean-Sébastien Alti.
On a une baisse de 75% de la réservation groupe pour l'automne. C'est un public qui est du 3e ou du 4e âge, donc qui est un public potentiellement plus sensible vis-à-vis de la Covid-19. Qui dit public fragile dit peut-être attente des prochaines informations sanitaires avant de confirmer les venues.
Et si pour l'heure les musées font encore le plein, c'est tout l'inverse dans leurs boutiques de souvenirs. Les visiteurs évitent de s'y éterniser, crise sanitaire oblige. Andaï, Sébastien Sabiron, France Inter.
Autre conséquence de ce risque sanitaire, l'annulation du marathon de Paris. C'est officiel, les baskets restent au placard après avoir été reportées 2 fois. L'événement prévu le 15 novembre est bel et bien annulé. Plus de 100 000 coureurs étaient attendus dans les rues de la capitale. Les vacances, c'est fini. En tout cas, pour les 66 000 élèves de Polynésie française et les protocoles sanitaires s'invitent dans les classes du Pacifique Sud. D'autant que les contaminations repartent là aussi à la hausse. Et pour les 2 000 internes qui doivent quitter leur île pour aller en cours, le ramassage scolaire ne se fait pas en bus, mais en avion. Béatrice Duguay.
La tournée des archipels et des atolls prend 3 à 4 jours pour la demi-douzaine de charters scolaires d'Air Tahiti, des Gambiers aux Tuamotu, des Marquises aux Australes en passant par Tahiti. Les élèves passent d'une île à l'autre en fonction des filières qu'ils choisissent. Mayanu Mourin est l'un des pilotes d'Air Tahiti qui assure ses vols.
Je sais qu'il y a un pensionnat sur l'atoll de Hao, qui est en plein milieu des Tuamotu. Je sais qu'il y a des enfants qui habitent Tahiti qui vont à l'école à Hao et réciproquement, ensuite il y a des enfants qui habitent Tahiti qui vont Gambier et inversement, il y en a un peu de partout.
Dans l'avion, il y a des larmes, mais aussi des sourires, témoigne le pilote.
La tranche 11 ans, 13 ans, on peut apercevoir la tristesse et le déchirement des familles qui s'en séparent et puis dans la tranche 14, 16, 17 ans, ils sont un peu tous contents de partir. Je suppose qu'en pensionnat avec tous les potes, ils s'éclatent.
Car ces jeunes travaillent dur aussi parfois dans leur famille pendant les vacances. Quant aux pilotes, ils sont tous candidats à tour de rôle pour cette tournée de ramassage, synonyme d'escapade à travers la Polynésie.
C'est notre seul vol où on ne fait pas dodo à la maison. Hein, on va au Tuamotu, on arrive au Gambier qui est un archipel magnifique et on y passe à peu près une douzaine d'heures. Quoi. On est en pension de famille, un petit déjeuner, un petit dîner, le dodo et le lendemain matin, le bonheur, on prend l'avion, ça nous change de l'habitude.
Mayanu Mourin devra lui probablement attendre 2021 maintenant pour assurer l'un de ses charters scolaires.
Béatrice Duguay pour France Inter. Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Lucas, bonjour à tous.
La vigilance rouge canicule est levée, ça y est.
Oui, la vague de chaleur approche de la fin, surtout sur les régions de l'Ouest. La nuit sera quand même encore chaude et parfois éprouvante, en particulier dans les zones urbanisées. Mais demain après-midi, les températures seront plus vivables. Prévoyez 24 degrés à Bordeaux, 25 degrés à Caen et à Rennes, 27 degrés pour Toulouse et 28 degrés à Paris. En revanche, sur l'Est et le Nord, l'ambiance sera encore chaude, voire très chaude. On attend 32 degrés à Lille et Marseille, 33 degrés à Metz et à Lyon et 34 degrés à Ajaccio. Et d'ailleurs, 44 départements sont encore en vigilance orange à la canicule.
Et Sébastien, place à une nouvelle vigilance orange, celle aux orages.
Oui, c'était prévu, hein. La tendance orageuse s'est bien accentuée cet après-midi avec des orages qui sont localement forts, porteurs de grêle avec de puissantes rafales de vent et des pluies pouvant être intenses. Ce soir et cette nuit, les orages concerneront les plaines du sud-ouest, le massif central, le centre-val de Loire, ainsi que les régions entre les côtes de la Manche, l'île de France, la Lorraine et les Hauts-de-France. Situation à nouveau orageuse demain avec une nouvelle série d'orages qui vont aborder la façade atlantique cette nuit pour gagner progressivement demain matin jusqu'au Limousin et à la Touraine. L'après-midi, ces orages gagneront jusqu'à l'Est-Bretagne, la Normandie, la région parisienne, les frontières du Nord, le Berry et l'Auvergne, et puis d'autres orages plus localisés bourgeonneront aussi l'après-midi entre le Grand Est et le Lyonnais. En revanche, le pourtour méditerranéen et le sud de la Garonne garderont un temps sec et plutôt ensoleillé.
Sébastien Léas, merci beaucoup.